tout ça. Et voilà. Et donc, qu'est-ce alors, que vous allez faire?
Je dis, bon, je n'ai pas de décision, ni rien du tout. Il revient à la charge quelques jours après. Et puis, bon, je commence à m'ennuyer. Je commence à...
Ben, bien sûr.
J'ai du travail.
Mais oui, mais ce n'est pas ce que vous souhaitez.
Je suis crevé le soir. Je me mets dans le lit et là, après avoir mangé
la soupe.
Ah non, mais vraiment, c'est vraiment très, très...
Copieux.
Copieux, important. Puis vraiment des repas extraordinaires. J'ai jamais aussi bien mangé que là, moi. Foie gras, je découvre. Je ne connaissais pas le foie gras, ni rien. Des trucs extraordinaires. Et puis ce monsieur, enfin, Léon Deslandes revient. Il s'appelle pas encore Léon Deslandes. Il revient, il me dit, alors, votre décision. Eh bien, j'ai dit, écoutez, alors, je vais faire un essai avec vous. Bon, il me dit, alors là, ça devient sérieux. Maintenant, nous allons fixer un programme. Mais il faut que vous soyez tout à fait indépendant. Je vais mettre le Georges de Gauss, le fermier, au courant. N'est-ce pas? De manière que vous n'ayez pas de problème. Si lui-même... veut être actif, parce qu'il pensait que c'était un garçon sérieux. Hein. Mm-hmm. Il avait son brevet de pilote.
Ah oui.
Ah oui, il avait fait l'école d'agriculture. Mm-hmm. Georges de Gauss, c'était un garçon qui... Mais... un peu mou. Il n'avait pas mon tempérament, quoi. Et il a accepté, donc il a fait partie. Il a cautionné ça. Hein. Nous avons donc... on a commencé à 15 jours, 3 semaines après, Monsieur Dussara est venu. Il m'a présenté un bonhomme que je ne connaissais pas, et avec qui j'ai parlé. Il m'a dit, est-ce que vous êtes capable de comprendre, d'apprendre le morse
Oui.
Je ne sais pas. Je ne sais rien, il faut faire des essais.
Essayé. Hein
les armes, ça vous intéresse? Pourquoi pas? Et voilà comment. Dans un bâtiment complètement désaffecté, qui était l'habitation du fermier autrefois, qui se trouvait à 150 mètres de la ferme originale, des beaux bâtiments, qui était tombé plus ou moins en ruine. Alors, la première réunion... type, c'est bien le matin, comme ça, de bonne heure, en vélo, avec Georges de Gauss, donc nous allons avec lui danser. Il dit, est-ce qu'il y a un coin tranquille? On l'emmène là. Il y avait on s'assoit sur du foin, mm-hmm. puis on discute. Il dit, bon, alors, on peut avoir confiance en vous, on peut sécuriser le coin, vous avez un repli possible. Et oui, on avait toujours des barques, on pouvait... franchir la Dour, aller d'un côté à l'autre. Il avait analysé le truc, le gars, hein, mm-hmm. déjà. Et il me dit, voilà, on va essayer de vous former. C'est pas moi qui vais vous former, mais il y a des agents qui vont venir spécialement. Alors, je pense que c'était des types qui étaient ou parachutés, ou... Bon. Mais on les voyait 2 heures, 3 heures.
Et c'était des Français.
Ah oui, oui. Alors, il parlait français très, très, très bien. Mmh. Des formateurs. Et c'est comme ça que j'ai appris le maniement des explosifs, des armes.
Et de la radio.
La radio, un petit peu. Et les fameux petits postes. J'ai fait voir pour les parachutages et tout ça. Bon, enfin, mais ça a duré plusieurs mois.
Merci.
Ah oui, un peu de jus d'orange, tiens. On va prendre.
Hein? Non, personnellement, c'est bien. Très bien. Oui,
non,
mais
oui. Bon. Je vous prends des chocolats, tiens.
Un petit whisky, non?
Oh, non, merci.
Alors, mangez des chocolats.
Voilà, merci.
Bon, je vais en prendre aussi. C'est pas bien. Mais bon.
Et c'est comme ça. Mais je dis, c'est pas en deux jours. Hein. Mm-hmm. Puis c'était des... C'était presque des rendez-vous comme ça, instinctifs.
Ah oui, oui, oui.
On ne les connaissait pas à l'avance.
Mm-hmm. Oui, oui, ils arrivaient et... voilà. Et ça a duré, ça, pour combien de temps, là?
Ça a duré, je suis resté à peu près fixe, hein, parce qu'il y avait des jours où, quand même, ils m'envoyaient faire des balades, hein, par-ci, par-là. Ça a duré 3 mois, à peu près.
Ah oui, c'est une formation.
Oui.
Et vous aviez une action, tous les, une formation tous les combien? Plusieurs.
Oui, il y a eu plusieurs. Je ne peux pas vous dire combien, j'en sais rien. Quelquefois, il se trouvait qu'on en avait deux la même semaine, mais on ne savait pas. Hein, une fois, c'était le matin, une fois, c'était l'après-midi, mais à des heures tout à fait...
Bien sûr.
Bon, donc la consigne, c'était là. Alors, j'étais en train de cercler la vigne, par exemple, et couper, avait... et puis Georges de Cosse, donc le jeune qui était là, il me disait... Vous comprenez, on laissait la binette là, et puis on foutait le camp, et la tante, quelquefois, nous sermonnait, et alors, on ne travaille plus. Vous voyez,
c'est
tout ce contexte inimaginable, indescriptible, et qui était la formation de base. Oui. Jusqu'au jour où j'étais, alors là, c'était deuxième semestre 42, où je suis venu à Libye, j'ai été à Libye hein, comme point de relais. Vous voyez, c'était vraiment après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres en voiture, en bicyclette, c'était mon havre de paix. Mm-hmm. Parce que je savais que je pouvais revenir là. Et la tante lui avait raconté une histoire que j'avais dû aller ailleurs et tout ça. Enfin, bref, il y avait tout un cinéma. Quoi. Mm.
Et donc, c'est à partir de là que vous allez commencer à agir pour la résistance.
Voilà.
Exactement. Et alors, vous êtes dans le réseau OCM ou...
Alors, je suis toujours dans le réseau OCM, mais je n'en sais pas. Je ne sais pas...
Oui, vous ne savez pas.
Que du Sahara, en août... en août 43, a déjà pris un contact par ce monsieur de Mesmé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un industriel qui habite Naros, et donc qu'il a un contact avec lui, et que ce monsieur de Mesmé est, lui, en contact direct avec les Anglais. Mais moi, je ne sais pas ça. Hein. J'apprends après.
Ah oui, oui, oui.
Non, je ne peux pas le savoir. Je vous mets, en 1943, je suis nommé agent P1, j'en sais rien.
Oui.
Oui, ça, vous le saurez après.
Après.
Vous verrez après. Les organigrammes.
Oui, oui, oui. Après.
Mais oui.
Mais on est dans le cirage. C'est ça que la plupart des gens, quand je parlais, aussi bien dans les collèges, ils étaient là, ils n'arrivaient pas à...
Mais c'est difficile, effectivement,
d'imaginer.
Oui, parce que finalement...
C'était vraiment l'armée secrète, ben c'est rien à faire.
Et chaque élément est un pion, mais qui n'a pas d'éléments...
Alors, quand on réunit tout après, quand tout est fini... Bon, regardez mon groupe. Regardez-le. Et ça, le groupe. Ça, c'est le groupe de la... qui m'avait été attribué. Est-ce que vous vous rendez compte Bon, c'est en...
On était en deuxième semestre 42.
Non, là, on est en 43. Hein, là,
on est en 43.
Oui. Attendez, pardon, je suis perdu. Alors,
oui, ça doit correspondre. Vous nous avez dit, oui, c'est en 43, là.
Oui, oui, 43, oui.
Oui, 43,
agent P1, c'est ça, oui. Contrôle et organisation, de parachuteurs, radio, moniteurs, armes explosives, transport, camouflage, matériel, parachuté. Alors là, là, on me déplace. Quelquefois, je vais à Gamarde, dans les Landes. Oui, c'est un petit bled qui est à côté de Pontonc-sur-Adour. Il y a un instituteur... qui est dans le machin, je ne le connais pas, mais il m'a fait des faux papiers. Je le rencontre.
À ce moment-là, vous avez des faux papiers.
Oui, oui.
On vous fait des faux papiers que vous allez chercher, on vous dit, il y a monsieur X qui va te donner quelque chose.
Des contrats de travail, des machins, des tas de trucs.
Voilà. Et vos missions consistent en quoi? Une fois que vous avez ces faux papiers, qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce qu'on vous charge de faire?
Eh bien, j'ai le transport, le premier, par exemple, On a fait des, il y a eu des tentatives de parachutistes qui sont loupées. Hein. Vous êtes convoqué sur le terrain et puis l'avion vient et repart. Quoi. C'est, faut pas croire que ça a réussi à tous les coups. Hein. Mm-hmm. Non. Bon. Donc il y a une espèce de, je sais pas, de responsabilité. Comment dirais-je? On a une responsabilité, hein. En fait, on n'a pas de contact avec
vous n'avez
la
pas
personne.
La maîtrise.
On n'a pas la maîtrise du...
D'accord.
On vous dit, on circonscrit votre action de manière extrêmement précise, mais il n'y a aucun contact avec
votre... On me dit, tu vas à Gelmo, à tel endroit, je rencontre un type, il y a un mot de passe, on a un truc, un petit machin, on se reconnaît. Mais le type, il ne me dit pas comment il s'appelle, ni rien, on sait. Hein? Et là, il y a un échange de messages que je rapporte, moi, vers mon chef, n'est-ce pas? Et lui le transmet à quelqu'un d'autre. C'est des communications.
Et votre chef, c'est Monsieur Dussarat.
Ah oui, lui.
D'accord.
Lui c'est mon patron. C'est mon patron au départ. Et il le restera jusqu'à la fin.
Et il faisait partie, lui, de l'OCM.
Voilà. Au départ, il fait partie de l'OCM. C'est là où je voulais en venir. Et en 1900... je cherchais le mois. Je crois que c'est août. Je suis à la ferme de Libes. En août 43, je crois.
Oui, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Août 43.
En août 43, je suis à la ferme de Libes. Je vois revenir à Follet, en vélo. Il a pris l'après-midi pour aller à l'enterrement de son associé, M. Barat, qui est décédé. Les catastrophes, ça arrive. Il n'aurait pas dû y aller, parce qu'il sait qu'il est déjà recherché. Et il va à l'enterrement. Bon, ça se passe bien. Et au retour, au lieu de regagner Libes, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par son bureau. Parce qu'il bon, a une entreprise, une grosse entreprise. Comment va-t-elle fonctionner, cette entreprise? Mais son associé est mort. Et le temps qu'il reste dans son bureau pour voir un de ses employés qui s'appelle toujours, il est plus âgé que moi, il vit toujours, malheureusement, le pauvre type. Et vous le trouverez dans mon exposé après, parce que bon, il a fantasmé, il s'est prêt pour un grand résistant. Il a eu du mérite, il a assumé une partie de la direction
De l'entreprise.
De l'entreprise. Mmh. Et il venait rendre compte à son patron comment ça fonctionnait. Et dans sa tête, il s'est dit, moi, je suis un grand résistant. Mmh. Hein? Et moi, quand j'ai tout laissé tomber après-guerre, et que M. Dussard avait disparu, puisqu'il est mort comme assez jeune, il a pris la grosse tête, il a fait des réunions, et tout ça. Telle enseigne que j'étais obligé d'intervenir pour le stopper. Bon, il y a des gens comme ça. Donc, ce monsieur Dussara, j'en reviens à mon propos et je vous balade là, il repasse à son bureau, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et là, il reçoit la visite d'un agent qui est un agent de Grand Clément et de Dose, le chef de la Gestapo, de la région Aquitaine. Vous voyez, ces gens-là lui rendent visite, enfin, des délégués. Il y a une grosse bagnole qui est là.
Et qu'est-ce qu'il dit
Bon, ils savent, ils ont appris que ce Dussara...
Il est soupçonné.
Il est soupçonné. Mais, contrairement à son équivalent de Lyon, le fameux Dose est un type très malin.
Alors, le DOS, c'est...
C'est le chef de la Gestapo de Bordeaux.
Oui. Ah oui.
Alors, il aurait pu envoyer des types l'arrêter, comme aurait fait le fameux type de Lyon, là. Je ne me souviens plus de son nom.
Barbier.
Vous voyez, deux méthodes, deux équivalences.
Oui.
Hein, deux méthodes. Lui, il a mis dans sa manche le fameux Grand Clément.
Grand Clément qui était ambigu, qui était...
Voilà, qui était ambigu. Alors il l'a arrêté, sa femme aussi, mais personne ne le sait. Puis il les a relâchés, il leur a dit, écoutez, hein, bon,
Il les a retournés. C'est un peu
il les a un peu retournés.
L'affaire Hardy et Charmoulet.
Voilà, exactement. Il les a retournés. Voilà. Et alors, ces gens-là rendent visite à du... Bon, parce que ça a trafiqué, moi. Tout ça après, hein, parce que sur le moment, je ne sais pas. Hein.
Bien sûr.
Et ils voient arriver ces types, mais c'était un homme extraordinaire, un tireur d'élite. Il avait fait les compétitions d'Helsinki en tireur d'élite, M. Dussara. C'était un type qui avait quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il sent le piège. Il a une porte au fond de son bureau. Il prend un escalier de service. Hop, il se débine et il arrive à la ferme de Libye. Il les a plantés là. Il les a plantés là, sachant très bien ce qui allait lui arriver. Il n'aurait pas été arrêté, mais on aurait essayé de le retourner.
Oui, ça pouvait être dangereux. Oui.
Et là, automatiquement, après, vous êtes piégé là. Hein.
C'est sûr. Oui, oui.
Il arrive à Libye et là, soudain, un type sanguin, il était blond. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça raconte l'histoire en vitesse. Il m'a dit, je crois qu'on va avoir des emmerdements. Ça commence à chauffer. Bon. Alors, on a pris des précautions. Nous avions fait, pour les premiers parachutages, nous avions fait une fosse de... Oh, ça devait faire à peu près la moitié de cette pièce, là, vous voyez, dans les sables de Libye.
Et alors là, dans ces parachutages, qu'est-ce que vous récupériez
Des armements.
Des armes. Est-ce qu'il y avait de l'argent?
Il paraît, on a dit qu'il y avait de l'argent. Moi, je vous donne ma parole que j'en ai jamais trouvé. Enfin, bon, je le regrette. Enfin,
oui.
D'ailleurs, c'était de l'argent qui était pour financer.
Mais déjà, c'était pour financer parce que la
résistance. Il y avait des gens qui avaient besoin.
Mais la résistance,
il fallait bien qu'ils subsistent.
Oui,
hein.
oui.
Enfin. Monsieur Dussara et moi-même, bon, je ne pense pas. On avait besoin de gens comme les gens de Libye et tout ça pour vivre, quoi.
Mais oui.
C'est tout.
Et ces armes que vous récupériez dans les parachutages, ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Alors, vous les cachiez, vous faisiez une fosse, et ensuite, est-ce que vous saviez ce qu'on en faisait
Voilà. Alors, il y a eu un temps où, mais alors un nombre très très restreint, Ces espèces de... Dans les sables des Landes, c'était facile. Puis après, on faisait un étayage comme dans les mines.
Pour
que ça s'écroule. Donc, on avait des espaces. Et là, on descendait. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y avait des armements, des poudres qui dégageaient des espèces de... On ne peut pas y rester longtemps. Hein, à peu près 15 minutes. Hein. On descendait, on avait une échelle. Et pendant 15 minutes, la nuit, on pouvait faire de l'instruction. Vous voyez, auprès de certains jeunes qu'on avait besoin, qui allaient être capables, moi, que j'ai dans la liste ici, qui allaient nous servir à la libération. Il fallait que ces gens-là soient
formés. Alors,
formés.
Voilà,
ils n'emportaient pas les armes.
Voilà, mais les initiés au maniement.
Voilà, les initiés au maniement, ce qu'on faisait.
Et est-ce que là, en 1943, est-ce que vous voyez arriver des jeunes, justement, non expérimentés
Fin 43, début 44.
Qui fuyaient le SETO.
Voilà, fin 43, mais surtout début 44. Ça a commencé début 44.
Et c'est ces jeunes-là que vous formiez donc...
Voilà.
Après vous-même avoir reçu l'instruction,
voilà.
Vous nous l'avez expliqué,
exactement.
Vous formiez ces jeunes.
Exactement.
Et ces jeunes qui arrivent début 44 arrivent pourquoi?
Eh bien, parce qu'ils ont peur d'être emmenés en Allemagne, ils ont déjà
des convocations pour le SETO.
Voilà, et alors là, ils commencent à se réfugier, ce qui fait que, on va faire un grand bond, mais ça avait commencé bien avant, le 6 juin 44, au moment... du débarquement à la ferme de Libye, il y a, 15 tonnes, 20 tonnes d'armes.
Oui.
Bon, et ces armes-là, on sait très bien, nous les avons déménagées. Parce qu'on ne peut plus les laisser là, ça ne sert à rien. C'était du stockage.
C'était du stockage, là, oui.
Maintenant, il faut que ce soit actif. Donc, moi, je suis dans la nature, parce que j'ai un groupe de... je sais pas combien, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 ou 35 bons hommes sous mes ordres.
Et qui sont arrivés, et ces gens-là, où ils sont? Ils sont cachés?
Ils sont dans la nature, ils sont prévenus, j'en connais très peu, Tous pensent que je suis un agent anglais. Parce qu'ils m'ont jamais vu.
Et... Ah oui, oui.
Et vous, votre supérieur, c'est toujours...
C'est toujours du Sarah.
Du Sarah. Ouais. C'est le seul que vous connaissiez.
Ah, moi, c'est le seul. Je connais lui et M. de Mesmé, de Narros.
Mais ces jeunes, vous ne les rencontrez pas. Hein.
Non. Non, moi, je les rencontre là, à ce moment-là, pour la première fois. Pour la première fois. Alors, donc, on déménage, on sait, on a reçu les messages radio. Les messages de préparation de...
Oui, qui vous arrivent par la radio de Londres.
Voilà, exactement. D'ailleurs, je dois les avoir par là.
Et sans doute aussi, et oui...
Hein, tous les messages... Et le jour où on reçoit, on sait qu'on va recevoir un message... je l'ai retrouvé, mais bon, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Bon, ce message, on le reçoit... je suis avec du Sarah, il m'a dit, bon, on a 48 heures. Parce qu'il y avait un premier message, un message de confirmation, un message d'application. C'était...
Ouais.
Vous voyez, il y avait une espèce de série. Tout ça, nous le savions. Il était averti de ça.
Alors vous aviez donc 3 temps dans les messages.
Voilà, exactement.
Hein. Le premier, c'était pour vous informer. Le deuxième...
En alerte. Voilà. Le deuxième... Ça se rapproche.
Ça se confirme.
Et puis l'autre, confirmation, ça va être ce soir, ça va être demain matin, c'est là, maintenant.
Et c'est les ordres qui étaient donnés par ces messages, c'était quoi? C'était préparation d'un parachutage, une action
Il y avait la préparation militaire. D'un parachutage, il y a eu tout le message, série de parachutages pour le débarquement de Normandie, où il fallait que nous bloquions tous les axes routiers pour pas que les troupes allemandes se déplacent. Et regagne la Normandie. Ça, c'était le message principal. C'est pour ça que je me retrouve là, je fais un bond en avant, le 6 juin 44, je me retrouve, j'ai préparé, j'ai descendu des armes de la ferme de Libes, les armes qui correspondent à mon groupe. Oui. Je sais qu'il me faut un bazooka, je sais qu'il me faut une mitrailleuse, je sais qu'il me faut des armes individuelles, je sais qu'il me faut des explosifs. Tout ça, j'ai mon détail, moi je l'ai fait, je le sais. Donc tout ça, c'est transporté 3 ou 4 jours avant, de la ferme de Libes, en bateau, en descendant la Dour, jusqu'à une cache qui a été préparée, qui s'appelle... des anciens bains de boue de Dax au Beignot.
Au Beignot.
Voilà. Mais des bâtiments désaffectés, qui sont moitié en ruine, vous voyez, un peu...
Alors oui,
après la ville de Dax.
Et c'est là que vont venir les chercher les gens qui en ont besoin.
Alors, les gens, ça, tous ces gens-là qui sont notés ici, ont reçu... Je ne sais pas comment, mais ils ont reçu. Bah, parce qu'il y a d'autres, que moi hein, qui transmettent.
Sûr.
On prévenu Loustalot, Séverin, là-bas, etc.
Voilà.
Tu te rendras à telle heure, à tel endroit, à tel jour. Et moi, j'arrive. Je sais que j'ai stocké des armes, là. Hein, quelques jours avant. Je sais que tout est prêt, c'est caché. Moi, j'arrive avec un plan de bataille. Et je me trouve dans un grand... ces grands greniers qui existaient autrefois, là, avec ces 25 ou 30 bonhommes, là, qui sont là, qui me regardent comme une bête. Bon, celui-là, c'est un Anglais, là.
Et c'est vous qui allez leur donner...
Et c'est moi qui vais organiser, pour la nuit qui va venir, ce qu'on a appelé le coup de main de la pince à Dax. Vous voyez, c'est cette route qui va de Dax à Saint-Jour-de-Marenne. Quand on sort de Dax, il y a une espèce de montée. Là, on est à peu près à 4 km de la ville.
Oui.
Sur la droite, on s'en va sur Magesque et Souston, en haut. Vous voyez, là, et c'est là. Il y a une rangée de platanes.
Oui.
Et moi, j'ai mon j'ai calculé tout ça avant. Je suis allé voir sur place. Je sais que je peux stopper la circulation de tous les camions allemands qui vont venir.
Oui, parce que vous avez reçu comme ordre de bloquer la petite route.
Voilà.
Bon, voilà. Voilà. Donc, à vous de réaliser l'opération.
Exactement.
Avec les jeunes et les armes.
Il faut que pendant les heures de débarquement, tous ces axes soient bloqués de manière que les Allemands ne puissent pas. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs.
Oui, et c'est ce qui a eu une importance, quand même, capitale.
Ben oui, mais capitale.
Oui, parce qu'ils n'ont pas pu regrouper leurs forces.
Voilà. Et partout, ça a été exécuté avec exactitude. Tout a fonctionné.
Ouais. Mais oui, parce que
Alors moi, j'étais obéissant, bête et obéissant. On m'avait dit de faire des trucs, et je les ai faits. Comme on m'avait dit de le faire, il y a eu des coups qui ont été ratés.
Parce que les gens... On ne peut pas tout maîtriser.
Non, mais parce que les gens ont pris des initiatives qu'ils n'auraient peut-être pas dû prendre. Ils ne se sont tenus. Je me dis que les gens qui avaient calculé, c'était quand même des stratèges.
Il y a toute une stratégie. Alors, maintenant que vous le savez, a posteriori, elle était conçue en Angleterre, cette stratégie, en alliance avec les agents anglais.
Certainement, ça... Certainement, c'était, à mon avis, ça venait pas d'Angleterre, mais ça venait certainement du poste de commandement de Bordeaux.
Et oui, et c'est le Roger Land. Roger Land.
Ben oui, bien sûr.
Et c'est lui l'agent quand même central de.
Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Oui.
Qui s'appelle Roger Land.
Oui. Alors, tiens, je vous fais rire. Tiens là. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne vous ai pas fini l'histoire tout à l'heure.
Et oui, parce que vous nous avez commencé, c'est là. Donc maintenant, on arrive à Roger
Land. Vous allez vous lasser de moi.
Donc... Non, allez-y là.
Ce Roger Land.
Est-ce qu'on a l'air fatigué ?
Vous me plaisez, madame. Et alors, ce Roger Land, je vous ai dit que c'était donc... début du 18e, oui, par là, certainement. Son père, Diamantaire, quitte la Pologne... Et arrive en Angleterre. Il ne connaît pas un mot d'anglais. Il s'exprime certainement très mal, même en polonais. Et quand il passe au service d'immigration, parce que ça existe déjà, en Angleterre. Ils sont très précoces.
Oui.
Il passe dans le truc et on lui dit, bon, alors, vous appelez comment ? Et là, bon, questionnaire, bon, ça ne doit pas être brillant, alors... le type qui écrit, il ne doit pas être très malin non plus. Et alors, on lui dit, on a fini par lui tirer. Et ça c'est de la bouche du petit-fils. Hein. Et. Poland. Alors, le scribouillard. Ah. Poland. Alors. Land. Et il l'écrit comme le département. Formidable. Parce que ça, c'était la première question que je lui ai posée quand j'ai rencontré.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il s'appelait Land.
Voilà. Comment ? Non. Il venait de Pologne. De Pologne.
Mais il reste là.
Et on lui donne ce nom.
On lui donne
Et alors, on lui a inscrit sur sa fiche d'état civil, Land. Oui. Je me souviens plus, il m'a donné, d'ailleurs, juste son état civil, le nom, le prénom de son grand-père et tout ça, tout. Et bon, arrive après les guerres napoléoniennes, tout le monde a subi les conséquences, même l'Angleterre. Arrive des moments durs, parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Il n'y a pas que maintenant. Oui. Et ces gens-là, bon, ont de grosses difficultés. Alors le grand-père, il continue à vivre. Bon, il n'a plus beaucoup de bijoux à tailler, mais rien. Mais son fils, le père de Roger Land... Il commence à dire, mais il y a un frère, il y a lui, et cette famille, il faut la nourrir, et tout ça. Bon, allez, on passe la Manche. Ils arrivent à Paris. Les Landes. Et alors là, le père de Roger Land crée une espèce de petite bijouterie. Son père. Et bon, ils s'en tirent bien. Il a Roger Land qui fait des études, et il fait, je crois qu'il a un diplôme d'architecte, il est bon, ça va quoi. Son frère, je ne me souviens plus ce qu'il faisait. Alors à un moment donné, on leur dit, voilà, vous êtes anglais, il faut choisir. Vous faites votre service militaire en France, Ils ont les deux, ils ont le passeport, ils ont les deux nationalités, anglais et français. Le frère de Roger Land, il dit, moi je reste en France, il est mobilisé dans l'armée française.
Ah oui.
Roger Land, il y a une autre analyse, il s'est dit, oh là là, ces Allemands, ils sont dangereux, s'ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il repart en Angleterre. Il arrive en Angleterre, il se présente, il me l'a dit, d'ailleurs je dois avoir noté dans tous les services où il faut se présenter, pour être intégré dans l'armée. Alors partout on lui dit trop petit, c'est vrai qu'il était petit, trop maigre, aussi, trop là. Et puis le grand boom arrive, les bombardements allemands, il est là, alors on ne sait pas quoi en faire. Alors, il a des notions d'architecte. Les bâtiments s'écroulent, brûlent à Londres. Alors, il est dans ces services-là. Les services de l'immobilier, tout ça, il va... Voilà, c'est comme ça qu'il commence. Et puis, il n'est pas passionné, quand même, là. Il s'est dit...
La reconstruction, c'est pas mon affaire.
Ben oui, il le fait, mais enfin, dis-moi... Là, il commence à comprendre qu'il aurait peut-être un... une vision de la libération de, aussi bien de l'Angleterre qui est attaquée que de la France qui est son pays où il a fait ses études. Alors il se porte deux ou trois fois volontaire dans les services d'entraînement pour le, être parachuté, pas spécialement en France, hein, ou ailleurs, parce que on a toujours l'air de penser qu'il n'y a que la France, mais tout,
bien
tous
sûr,
les pays d'Europe.
L'Europe.
Oui, donc il rentre dans ces services d'action secrète que crée Churchill.
Alors il passe, il m'a raconté 100 fois, puisque je l'ai eu ici, je suis allé le voir en Angleterre. Alors ce sont des parcours vraiment épouvantables, questionnaires, tout bazar, tout ça. Et oui, parce qu'il arrive de France, alors il faut... Il faut voir si ce n'est pas un agent allemand.
Mais
c'est...
Voilà, oui.
On cherche.
Oui, oui.
Et puis, bon, on se voit, tiens, qu'il est pas maladroit, il commence à sauter bien, la tour de parachute, et il fait ce qu'on lui dit, il est débrouillard, et voilà. Il part en Écosse.
Voilà, ils sont tous passés par l'Écosse, tous ces services secrets. Là.
Bien sûr, oui, bien sûr. Et voilà, il fait ses gammes.
Oui, oui.
Et c'est en... Je ne sais pas si je l'ai noté, mais enfin, je ne me souviens pas très bien. Il est parachuté en France. Donc...
Assez tôt, donc.
Ah oui, 42. Il est parachuté dans l'Indre. Je crois, oui, ou du côté de Blois, par là. Mais attention, la première fois, l'avion vient et fait demi-tour, parce que...
Oui.
Il y a la flag, on ne les reçoit pas avec des, des biscuits.
Non, non.
Donc l'avion repart, loupé, alors un peu décontenancé, il attend quelques jours. Et puis... Un nouveau parachutage, et puis là c'est le bon. Et alors il a sa feuille de route. Il est radio et il doit rejoindre Bordeaux. Pour aller s'intégrer à la résistance bordelaise qui est commandée par, à ce moment-là, je ne me souviens plus qui, je vais l'avoir par là. Oh, mais il faudrait que je vous fasse un schéma parce que là, je suis. Ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur.
Non, mais on voit quand même bien le...
Vous voyez le parcours.
Oui, hein, le parcours, mais on vous suit. Hein.
Oui, je sais, mais enfin, j'aurais aimé que ce soit bien plus précis. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, il arrive à Bordeaux, il a un chef. Et il est radio, il pianote parfaitement, tant de mots la minute, tout le monde est content, ok, pof, tout marche bien. Et le soir, il déménage, hein, il est là, après il est là. Et c'est au cours de ce périple qu'il rencontre le monsieur Corbin, qui est un policier de Bordeaux, du commissariat central de Bordeaux. Et un soir, il opère dans sa chambre chez lui. Il ouvre son poste. J'ai baladé son poste sur son porte-bagages. Hein. Ouais. On va le faire. Puis bon, ils prennent contact, tout ça. Bon, quelques jours après, ou quelques semaines après, il reprend contact, parce qu'il n'est jamais le même soir au même endroit. Et c'est comme ça qu'il arrive à connaître les Corbins. Et il y a un coup de Trafalgar que je vous ai signalé tout à l'heure, quand le fameux agent allemand met du ménage auprès de Grand Clément et tout ça. Et il y a un agent, un des agents anglais qui est arrêté. Donc, je vais retrouver son nom, mais comment cela peut-il ?
Et là, il était en liaison avec quel réseau de résistance à Bordeaux ? Comment s'appelait le... Est-ce que c'était l'OCM ou est-ce que...
Eh bien, il avait des contacts avec l'OCM, mais lui, il avait surtout des contacts directs avec Londres. C'est-à-dire qu'il était... Il était un électron libre, disons, là, oui. Sur la région, avec un entourage britannique, enfin d'agents britanniques, parce qu'il n'était pas seul. Ouais, oui. Mais il pianotait, lui.
Voilà, recueil de renseignements qu'il transférait sur Londres.
Il ne recueillait même pas les renseignements. On lui disait, allez, top, tu
fais voilà. Ça. Oui, d'accord.
Ce soir, tu envoies tel message.
D'accord. Donc, il est chargé de transmettre.
Voilà. Et il est dans un groupe d'agents britanniques.
Voilà.
Eux sont en liaison avec les différents réseaux.
Britanniques ou français. Oui, mais ils sont plusieurs. D'ailleurs, je retrouverai les noms, hein, parce que j'arriverai à me j'espère.
Oui, mais c'est, de toute façon, si vous les avez marqués, là,
vous savez, c'est ce que j'ai fait dans les quelques fois que je suis un petit peu pagayous et j'ai interverti des pages quelquefois, ça ne suit pas toujours. C'est pour ça que je cherche. Si j'avais à trouver, je vous l'aurais donné tout de suite, ça aurait été plus.
Oui,
parce qu'il y avait la création du SOE, il y avait Buxmaster, qui était donc le grand patron, hein, Buxmaster, qui était le colonel Buxmaster, qui avait été nommé par Churchill le patron de la résistance française.
Oui, oui.
Hein, c'était lui. Il y en avait un autre qui contrôlait la Hollande, un autre qui contrôlait la Belgique, un autre, etc. etc. Mais Buxmaster, c'était le patron pour tout ce qui se passait sur la France.
Sur la France. Et qui était, lui, à Londres.
À Londres.
Voilà.
À Londres. Et il était sous les ordres de je crois que c'est le colonel... parce que Churchill, il avait un cabinet très réduit. Hein.
Mais oui, oui, oui.
Il n'y avait pas des centaines de bonhommes. Hein. Je crois que celui qui commandait Buckmaster, je crois que c'était Gubbins. Hein. Donc après il y avait les FFL qui avaient des donc sous la direction du général de Gaulle qui était évité que Churchill évitait de plus
bien
ou
sûr,
moins
oui.
Parce que bon il lui cachait des choses, on le comprend hein, c'était difficile.
Oui, oui.
C'était difficile hein.
Période compliquée
et période difficile
et Churchill dès le départ de la guerre avait, ça avait été sa grande intuition il avait prévu qu'il fallait mener une guerre secrète, qu'il fallait
voilà.
favoriser.
Exactement.
Favoriser dès 1940.
Moi, j'ai cette déclaration. Là, et les FFL, c'était le BCRA.
Oui, voilà.
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 Là, c'est de Gaulle.
Voilà. 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 Donc, Aristide est là. Et il travaille, donc, il est parachuté 42-43. Alors, 43. Il y a des tas de problèmes.
Aristide, c'est qui
Roger Land.
Oui. Ah, c'est lui.
Faut le mettre entre guillemets.
Voilà.
Entre guillemets.
Voilà. Son nom de guerre,
voilà,
donc
voilà.
C'est Aristide.
Oui, oui.
Voilà.
Land, j'ai su qu'il s'appelait Land après.
Et oui, bien sûr. Mais vous ne l'aviez jamais rencontré.
Jamais. Je l'ai rencontré après l'histoire de Gaulle. Là, il était foudroyé. Et comme ce jour-là, Dussara était à Bordeaux, moi j'étais pas. J'étais à Bordeaux pour une autre histoire, le grand hôtel qui est en face, les Quinconces, là, où Dussara a giflé un général qui arrivait de... Le général Dufour, qui arrivait d'Alger, et qui avait été débarqué avec... bon, parce que là, il y avait des magouilleurs, hein, chez De Gaulle aussi, et qui voulait prendre le commandement et évincer Aristide, quoi, là, à ce moment-là aussi. Alors là, il s'était fait coller une paire de claques par Dussara, qui était deux fois plus petit que lui.
C'est comme l'affaire de Ravanel à Toulouse.
Voilà. Tout à voilà. Fait dans un peu dans le même style de truc. Oui, oui. Et alors, nous sommes là en 43. Et Aristide a fait un très, très gros boulot. Il a reçu des félicitations et tout ça. Il a organisé bien, bien des trucs. Et bon, je ne sais pas, je suis sous le commandement d'un Anglais, moi. Dussara non plus, hein. Dussara ne rencontre. Je vous dis, il n'y a que de Mesmer, le comte de Mesmer, parce que c'était un comte, mais un type formidable, qui était donc avait ses filatures de soie à Naros, qui le connaît. Mmh. C'est le seul. Donc c'était bien organisé quand même, ça. Vous savez, il n'y a pas eu de fuite de ce côté-là. On avait un espèce de réseau, nous, qui était sérieux, quoi. Il m'est jamais venu à l'idée de dire, qui c'est ce type, de vouloir savoir.
Oui, oui.
Non, il fallait surtout pas.
Non.
Il fallait éviter.
On avait un cadre. Il y avait des missions bien précises. Oui, bon. Oui. Je supposais que ce n'était pas des idiots qui me disaient de faire ça, et puis j'exécutais. Alors, je l'exécutais bien ou mal, ça c'était ma compétence, mais c'était ça, puis c'est tout. Mais je n'allais pas chercher ailleurs.
Oui, oui. Et donc, vous disiez que ça sentait le roussi quand Corbin avertit, donc on est en 44 là.
Voilà. Alors, on est début 44. Début 44. Non. Fin 43. On est en octobre, oui, je crois. Je vous le dirai, mais je me souviens pas exactement. Ils partent donc fin 43. Ils regagnent l'Espagne. Ils emmènent Corbin. Corbin est interné.
Ah, ils passent en Espagne.
Oui, oui.
Parce qu'ils sentent là qu'ils sont.
Là, ils sentent que. Puis Londres. Londres lui a dit rentrer.
Ah oui.
Oui. Il y a l'histoire Grand Clément. Ils savent ce qui se passe là-bas aussi. Ils ont des agents partout.
Alors qui c'est qui rentre là? C'est Barat et Aristide ou...
Non, Aristide et Corbin.
Et Corbin. Hein, tous les deux.
Alors Corbin n'est pas un agent. Est un agent français.
Oui.
Mais
on le fait partir quand même.
Mais comme il a un attachement pour la famille Corbin. Et il a des sentiments, ne serait-ce que pour...
La fille.
oui. Mais certainement qu'il y a ça, enfin, je sais pas.
La fille qui va devenir sa femme.
Ben voilà. Alors, mais il ne le sait pas encore à ce moment-là. Ce sera dans quelques années. Il ne le sait pas, mais on peut supposer qu'il y a déjà une affinité, qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre eux, parce que pourquoi a-t-il choisi Corbin? Il aurait pu en choisir d'autres, il y en avait d'autres. Moi, il choisit Corbin, il a confiance en lui, il l'emmène. Par contre... Roger Land, l'ambassadeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un ambassadeur d'Angleterre auprès de Franco. Bon, l'ambassadeur d'Angleterre, il est décoché tout de suite pour venir chercher Land. Oui.
Ah oui. Et il passe là par un réseau d'évasion.
Oui, on va le faire embarquer au Portugal.
Officiel.
Bien sûr. Il regagne l'Angleterre. Par contre, Corbin, lui... Il va végéter un petit peu là. Hein.
Ah oui, il fait les camps d'internement.
Oui, non, ben c'est pas les camps d'internement parce que je pense que Roger Land avait donné les ordres, mais que l'ambassade d'Angleterre s'en occupe. Mais lui, il reste quand même quelques jours. Il ne part pas tout de suite. Et quand il arrive en Angleterre, alors par contre là, il passe au dénoyautage,
au débriefing.
Oui. Et il est parachuté. Quand Roger Land est reparachuté, parce qu'il reste là, donc, décembre, janvier, février, mars, 4 mois, presque 3 mois, je crois que c'est en mars ou par là, qu'il est reparachuté en Algérie. Mais Corbin sera parachuté plus tard, parce qu'il a, d'abord il a besoin d'une formation, et puis il sera parachuté, lui, au nord de la Charente-Maritime.
Ah oui, donc il ne reste pas forcément dans la même zone.
Il est dans la même zone, parce que c'est tout plus ou moins contrôlé par Land, qui est devenu à ce moment-là, non pas le pianoteur, mais le patron.
Le patron. Voilà. Et qui coordonne l'action de ces réseaux.
Voilà.
Et la position, alors, dans les FFI, dépendant du... Enfin, les FFL, c'est plutôt les forces françaises dépendantes de De Gaulle, du BCRA. Quels sont les rapports? Il y a les FFI, entre autres.
Logiquement, on n'en a pas connaissance. On a la connaissance à la Libération. On n'en a pas connaissance. On sait que ça existe, bien sûr, on le sait, on entend la radio, on écoute tout ça, mais l'OCM, là, le fameux Grand Clément, il dépend de De Gaulle sans dépendre de De Gaulle, puisque tous ces mouvements sont plus ou moins indépendants. Avec tous ces chefs qu'il y a, il y a une multitude de chefs en France.
Bien sûr. Et oui, parce que chaque région, son chef...
C'est là
de l'information.
C'est là où je comprends la complexité de De Gaulle. Quand d'abord il n'est pas prévenu du débarquement, ça la plupart des gens l'ont oublié, mais le jour précis du débarquement, il est pas il en a voulu.
Oui, ça explique pas après tous les règlements de compte.
Bon, quelques jours après, il débarque, il est sur un croiseur. Et il arrive à... Il amène le premier... comment s'appelait ces types qui étaient placés dans les régions, les...
Commissaires de la République.
Commissaires de la République. Il amène... je dors son nom par là. Il amène un commissaire de la République, un type vraiment capable, hein, dans la région de Caen.
De Caen, ici.
Caen.
Ah, Caen.
Calvados.
Oui,
hein, il débarque dans un port, là... c'est marqué dans l'histoire. Hein,
oui.
Et il fait débarquer son type, et c'est là. Moi, j'y suis allé d'ailleurs, et j'ai rencontré les gens qui étaient là à l'arrivée après, quand je suis allé voir le musée de Caen. Mm-hmm. J'ai rencontré des gens qui étaient là.
Qui étaient présents
à ce moment-là. Hein, c'est formidable. Hein.
Oui, bon, oui.
C'était plus âgé que moi, tous ces gens-là, ils avaient l'âge de mon père et tout. Mais. Ils m'ont raconté textuellement ce que on a vécu après avec De Gaulle, qui il n'était pas content, mais enfin comment peut-on se mettre dans la peau d'un chef comme Churchill, qui a quand même une responsabilité énorme, qui sait tous les grenouillages qu'il y a avec Vichy, qui se sont infiltrés chez De Gaulle.
Bien sûr.
Et qui sont toujours en contact avec les Allemands. Alors, si on est sincère et qu'on dit, mais effectivement, il ne pouvait pas faire autrement, il y a quand même des choses qu'il ne pouvait pas dire.
Bien sûr. Oui. Et puis, il y a la position des Américains.
Ça, c'est autre chose.
Qui voulaient, en plus, imposer une autorité administrative américaine.
Voilà, ça, il ne faut pas oublier. Donc, alors, moi, j'en ai voulu longtemps, enfin, ils s'en foutaient certainement, à Roosevelt, qui avait quand même jusqu'à l'occupation de la zone libre, un attaché auprès de Vichy. Hein.
Oui, alors, en plus, oui.
Ah oui.
Ah oui.
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 Parce que eux envisageaient. C'est
eux qui avaient mis Giraud en marche.
Mais voilà. Et eux, ils envisageaient la transition Vichy. Gouvernement pro-américain.
Exactement.
Pro-consulat américain.
Voilà, exactement. Et éliminer De Gaulle.
Voilà.
Alors, évidemment, il y a des choses, enfin, pour moi, petits résistants qui sont difficiles à analyser sur le plan politique et géopolitique. Mais on comprend réaction de Churchill.
Bien sûr. Mais oui. Et c'est pour ça qu'il va y avoir quand même cette espèce d'obsession que va avoir De Gaulle dès 1945, au moment de la libération, de montrer que la France a résisté et s'est en partie libérée elle-même.
Ouais.
D'où, de ce fait, la nécessité qu'on a à lui donner le gouvernement.
Il a raison sur le fond, il a tort sur les états de service.
Voilà.
Parce qu'il y a beaucoup... Vous comprenez ce que je veux dire ?
Mais oui, oui.
Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se tourne vers le petit père des peuples, là-bas. Hein ?
Oui, oui, il, oui.
On a l'impression, on dit, mais il est fou. Il va faire alliance avec Staline.
D'où la non,
c'est le levier pour faire lâcher Roosevelt.
Oui, oui, tout à fait.
Hein ?
Oui, oui.
Moi je l'ai vécu comme ça.
Oui, oui. Et en même temps aussi, la difficulté qu'il y a, alors ça vous avez dû le connaître aussi, la difficulté qu'il y a au lendemain de la guerre de restaurer une autorité administrative, restaurer l'État.
Oh, ben là, je vais vous donner un truc flagrant. Hein. Monsieur Lamarque Kando, que je n'ai jamais cité, mais qui était un député à ce moment-là, il est déjà à la Chambre. Je ne sais pas s'il est il est instituteur à Pissos, et je me demande s'il n'est pas déjà député. Ou il va l'être très vite. Il intervient à la Chambre des députés, important. C'est un socialiste et un SFIO. Il intervient à la Chambre pour ce qu'on appelle le métayage. Faire supprimer dans les Landes le métayage pour que tous les gens puissent avoir une ferme, être fermier, mais pas métayer. Parce que le métayer était le dépendant, était l'esclave. C'est lui qui fait la loi, qui présente la loi qui est adoptée. C'est battu, hein, Lamarcando. Et à ce moment-là, je vous parle de tout de suite après la guerre. Dussara est un homme qui, politiquement, est venu de, je dirais pas de l'extrême droite, mais de la droite dure. Hein ? C'est le...
Oui.
Je dirais pas que c'est le Kaoula, mais enfin...
Pas loin. Hein. Oui.
Et Lamarcando, un socialiste dur. Mais voilà deux hommes qui vont travailler ensemble, qui vont être formidables... Et puis, petit à petit, Dussara va devenir socialiste et Lamarque Kando sera avec Borges Monori et tout, c'est-à-dire pas totalement à droite, mais disons le centre droit.
Une évolution presque
incroyable. Ce qui m'a valu les pires... Alors, voilà encore un truc. Ce qui m'a valu les pires truc, alors que M. Lamarque Kando, j'ai lu des lettres de lui et tout ça, parce que son fils avait été arrêté par les Allemands, en train de saboter, transporté au fort du Ha, au moment de la libération de Mont-de-Marsan. Alors il me téléphone, il me dit, écoute Michel, je suis obligé de quitter mon poste, Carlitos, on l'appelait Carlitos, le fils Lamarque. A été arrêté, il faut que je fasse des démarches, quoi, parce que, bon, le Bordeaux n'était pas complètement libéré, mais enfin, il a fait le voyage, il s'est adressé à des gens où il fallait essayer de le faire sortir, qu'il ne soit pas embarqué en Allemagne. Vous voyez un peu le père, hein, résistant dans les Landes et qui est obligé de... Et alors là, il s'en va, il a réussi, il revient, Mont-de-Marsan est libéré, mais il revient, Mont-de-Marsan est libéré. Et alors, il me dit, tu vois, je suis dégoûté de la politique. Quand on voit des gens, les Doriot, tous ces types qui étaient des ultra-gauches et puis qui sont passés chez Pétain et tout ça, tous ces...
Les opportunistes.
Les opportunistes, il me dit, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, tu vois. J'ai des convictions. Mais je suis dégoûté, je ne sais plus, toi, je ne sais plus. Alors, il était maire de Sabre, il devient maire de Mont-de-Marsan pour la libération. J'ai battu comme un lion. D'ailleurs, il y a des salauds qui lui avaient envoyé à un moment donné, Juppé dans les pattes, vous savez, pour... Juppé qui était très jeune, quoi, narque, très jeune... Mais il avait de la famille à Mont-de-Marsan, il était natif de la région, donc il pouvait se présenter comme maire à Mont-de-Marsan.
Ah oui.
Et alors, la marque me téléphone, il me dit, tu vois, c'est salaud. Putain. Tu vois, on a risqué notre peau. Mais personne ne reconnaît rien. Quand tous les dangers sont passés.
Oui, c'est...
Alors il m'a dit, tu vois, tous ces types qui se camouflaient, tous ces guignols qui, hein, qu'on n'a pas vu une fois pendant la clandestinité. Maintenant, ça pavoie, ça magouille. Ça... Mmh.
C'est un... mmh. Et c'est l'affaire Guingouin à Limoges.
Mais oui, oui, non, c'est pareil.
Pareil.
L'affaire Guingouin. Mais oui. D'ailleurs, j'ai un livre qui... Ah,
peut-être je pourrais vous le prêter. Et vous, quel souvenir vous avez justement de ce climat, de la libération, de la épuration?
Moi, je vais vous dire, bon, je vous ai dit tout à l'heure, compte tenu que c'était les enfants de la Troisième République, mes oncles et tout ça, bon, mm-hmm. je vous dirais tout de suite qu'ils étaient plutôt à gauche, quoi. C'était. Mm-hmm. Des gens qui avaient une tendance à voter à gauche, quoi.
Voilà, et c'est oui. Fillot, parti radical.
Mon père, non. Mon père était radical socialiste, mais non, j'ai jamais parti à la SFIO. Et j'ai trouvé des variations énormes comme ça de gens qui... mais qui s'entendaient bien.
Ah oui, ça... Ça n'empêche pas.
Qui pouvaient discuter, tandis que maintenant, c'est affreux. Quoi. C'est abominable. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Sud-Ouest d'aujourd'hui. Vous n'avez pas vu le Sud-Ouest d'aujourd'hui?
Non.
Tous les candidats à l'élection.
Ah oui, ah oui. Je ne sais pas combien il y en a. À la mairie de Pau?
Oui.
Ouais, j'ai aperçu ça. Oui. J'ai aperçu.
Palier de crabe.
Voilà.
C'est aujourd'hui, ben, voilà. C'est ça.
Alors ça, c'est affreux. Ça.
Et alors, vous, donc, au lendemain de la libération, là, est-ce que vous sentez à la fois bon, les débordements de cette période où on a tout un tas de faux résistants qui essaient de se replacer, et en même temps aussi l'esprit dont vous parlez, l'esprit de la résistance?
Oui, mais moi, je ne le vis pas. Je ne le vis pas. D'ailleurs, je vous le dis, puisque les Anglais m'envoient mon certificat d'appartenance à leur réseau. Et que ce truc-là, je ne suis plus à Dax. Je suis parti, moi, dans l'armée.
Ah oui,
je suis en Alsace.
Alors, et quand c'est que vous êtes... Comment ça se passe, la mutation, là?
Ben, la mutation, elle se passe quand je reviens à cette vie civile qui a été bizarre, où je vous ai raconté tout à l'heure cette espèce de traquenard que je tends à ma mère, que je l'emmène, que... Ouais. Bon, parce que...
Pour acheter la...
Voilà.
La d'Orthez.
Tout ça, je suis dans un nuage actif où je dois me démener sur tous les fronts. Et j'ai je recommence mes périodes militaires en 47. Je suis convoqué. Ah, oui, ça s'améliore. Alors, bon, j'ai du travail. Je suis officier de réserve. Je reçois une convocation de me présenter au camp de... Oh, comment il s'appelait dans l'Aude, un espèce de camp de la vallée de l'Aude, là-bas, près de Carcassonne, pour aller faire des relevés topographiques. Oh non, on a vécu toutes sortes de conneries.
Et alors, vous, là, quand la guerre est finie, vous rentrez, alors on vous incorpore dans l'armée?
Ah, moi, je suis dans l'armée. Quand je suis démobilisé.
Vous êtes démobilisé?
Je suis démobilisé comme sous-lieutenant. Oh, c'est pas un grade important. Je suis sous-lieutenant et renvoyé dans mes foyers, puisque j'ai pas voulu... Enfin, j'ai pas voulu, si je voulais, mais compte tenu de la situation familiale, en fait que... mon colonel m'engueule, me dit, vous faites une connerie, Renaud, bon, vous étiez fait pour l'armée, bon, il va m'envoyer à Cherchel.
Oui.
Il faut que je finisse ma formation.
Oui.
J'ai pas, bon.
Et la charnière entre la résistance et l'armée.
Eh bien, l'armée, je suis comptabilisé ici à la caserne Bosquet comme officier de réserve. Sous-lieutenant de réserve. Mmh. Alors, mon parcours, qu'est-ce qu'il est? Avec des omissions, avec des tas de trucs, parce qu'à ce moment-là, attention, ils écrivaient n'importe quoi.
Et comment vous passez des Landes à l'Alsace?
Eh bien, je passe des Landes à l'Alsace, c'est-à-dire que, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, je suis convoqué à la subdivision de Pau, à la caserne de Bordeaux, une caserne de Bordeaux, et on me dit, mais vous êtes sous contrat, là, clairement, vous. Alors, maintenant, il faut continuer. Hein. Et oui, j'avais signé un contrat, moi.
Ah oui, oui.
Avec l'armée.
Oui, avec, alors, avec l'armée avec la... d'armistice.
Mais oui, mais ça continue.
Donc, ça continue. Donc, il y a un pont qui est jeté.
Voilà, voilà.
Alors, à travers toute l'expérience alors, de la résistance.
Je passe à la question. Je passe 5 heures dans un bureau où je développe tout ce que j'ai fait. Ma résistance, mon machin, mon âme, voilà.
Et c'est là que vous avez la confirmation de l'attestation de présence du réseau anglais.
Oui. Ah non, non, non. Alors,
plus tard, ça vient de
là. Ah non, ça vient plus tard, ça. Ça vient plus tard.
Non, mais là, on vous incorpore, donc.
Ah oui, mais le, ça, c'est la libération.
Dans l'armée de libération.
C'est la libération, et au mois de septembre, oui, octobre, c'est à ce moment-là que je suis allé... Non, septembre, oui, septembre. Passé donc quelques heures à la caserne, je vous ai dit non tout à l'heure, maintenant je l'ai oublié, à Bordeaux. Et là, on me pose pas la question, on me développe bon, mon engagement, mon parcours de résistant, etc. etc. quoi. C'était, là je suis jeune, j'ai de la mémoire, ça va vite. Et puis on me dit, bon, ben vous êtes affecté comme officier de réserve. Et vous êtes spécialisé dans ces trucs-là à Paris qui étaient venus avec nous.